Marivaux, la vie de Marianne, feuilleton numéro 9. Vous reçûtes de hier la 9e partie de mon histoire, et je vous envoie aujourd'hui la 10e. On ne saurait guère aller plus vite. Je prévois, malgré cela, que vous ne me tiendrez pas grand compte de ma diligence. J'avoue moi-même que je n'ai pas le droit de la vanter. J'ai été jusqu'ici si paresseuse qu'elle ne suffit pas encore que je me corrige. Elle a plus l'air d'un caprice qui me prend que d'une vertu que j'acquiert, n'est-il pas vrai? Je suis sûr que c'est là votre pensée. Patience, vous me faites une injustice, madame, mais vous n'êtes pas encore obligée de le croire. C'est à moi, dans la suite, à vous l'apprendre et à mériter que vous me fassiez réparation. Donc poursuivons. C'est toujours mon amie, la religieuse, qui parle et qui est revenue sur le soir dans ma chambre où je l'attendais. « Vous vous ressouvenez bien, reprit-elle, que je suis chez Madame d'Ursan, qui me prodiguait tout ce qui sert à l'entretien d'une fille, de sorte qu'il ne tint qu'à ma mère de m'aimer beaucoup si, pour obtenir son amitié, je n'avais qu'à ne lui être point à charge et qu'à lui laisser tout doucement oublier que j'étais sa fille. » Aussi l'oublia-t-elle si bien qu'il y avait 4 ans qu'il nous était venu de ses nouvelles. Quand je perdis Madame d'Ursan, avec qui je n'avais vécu que 5 ou 6 ans, et je les passais d'une manière si tranquille et si uniforme que ce n'est pas la peine de m'y arrêter. Je vous ai déjà dit qu'on m'appelait la belle Tervire, car dans chaque petit canton de province, il y a presque toujours quelques personnes de notre sexe qui est la beauté du pays, celle, pour ainsi dire, dont le pays se fait fort. Or, c'était moi qui avait cette distinction-là, que je n'ai pas portée ailleurs et qui alors m'attirait quantité d'amants campagnards dont je ne me souciais guère, mais qui servaient à montrer que j'étais la belle par excellence, et c'était là tout ce qui m'en plaisait. Donc j'en devins plus glorieuse avec mes compagnes. Je n'étais pas de cette humeur-là. Elles ont pu souvent être mécontentes de ma figure qui triomphait de la leur, mais jamais elles n'ont eu à se plaindre de mon moi ni de mes façons. Jamais ma vanité ne triomphait d'elles. Au contraire, j'ignorais autant que je pouvais les préférences qu'on me donnait, je les écartais, je ne les voyais point, je passais pour ne les point voir, je souffrais même pour mes compagnes qui les voyaient, quoique je fusse bien aise que les autres les vissent. Oh, c'est une puérilité dont je me souviens encore. Mais comme il n'y avait que moi qui la savais, que mes amis ne me croyaient pas instruite de mes avantages, cela les adoucissait, c'était autant de rabattus sur leur mortification, et nous n'en vivions pas plus mal ensemble. Tout le monde m'aimait au reste. Elle est plus aimable qu'une autre, disait-on. Oh, il n'y a qu'elle qui ne s'en doute pas. On ne parlait que de cela, Madame d'Ursan, partout où nous allions. On ne l'entretenait de moi que pour me louer. Et on témoignait que c'était de bonne foi par l'accueil et les caresses qu'on me faisait. Il est vrai que j'étais née douce et qu'avec le caractère que j'avais, rien ne m'aurait plus inquiété que de me sentir mal dans l'esprit de quelqu'un. Madame d'Ursan, que j'aimais de tout mon cœur et qui en était convaincue, recueillait de son côté tout le bien qu'on lui disait de moi, en concluait qu'elle avait raison de m'aimer et ne le concluait qu'en m'aimant tous les jours davantage. Depuis que j'étais avec elle, je ne l'avais jamais vue qu'en parfaite santé. Mais comme elle était d'un âge très avancé, insensiblement cette santé s'altéra. Madame d'Ursan, jusque-là si active, devint infirme et pesante. Elle se plaignait que sa vue baissait, et d'autres accidents de la même nature survinrent. Nous ne sortions presque plus du château, c'était toujours de nouvelles indispositions, et elle en eut une, entre autres, qui parut lui annoncer une fin si prochaine qu'elle fit son testament sans me le dire. J'étais alors dans ma chambre, il n'y avait qu'une heure que je m'étais rentré, pour me livrer à toute l'inquiétude et à toute l'agitation d'esprit que me causait son état. J'avais pris tant d'attachement pour elle, et je la tenais si fort à la tendresse qu'elle avait pour moi, que la tête me tournait quand je pensais qu'elle pouvait mourir. Aussi, depuis quelques jours, étais-je moi-même extrêmement changé. De peur de l'effrayer, cependant, je paraissais tranquille et tâchais de montrer un peu de ma gaieté ordinaire. Mais en pareil cas, on rit de si mauvaise grâce, on imite si mal et si tristement ce qu'on ne sent point. Madame d'Ursan ne s'y trompait pas et souriait tendrement, me regardant comme pour me remercier de mes efforts. Elle venait donc d'écrire son testament quand je quittais ma chambre pour la rejoindre. J'avais pleuré et il restait toujours quelques petites impressions de cela sur le visage. « D'où viens-tu, ma nièce ?» me dit-elle. « T'as les yeux bien rouges. »« Oh, je le sais, » lui répondis-je. « C'est peut-être de ce que je me suis assoupi un quart d'heure. »« Oh non, tu n'as pas l'air d'avoir dormi, » reprit-elle en secouant la tête. « Tu as pleuré. »« Moi, maintenant, mais de quoi voulez-vous que je pleure ?» m'écriai-je avec cet air dégagé que j'affectais. « Mais de mon âge et de mes infirmités, » me dit-elle en souriant. « Comment de vos infirmités ? Pensez-vous qu'un petit dérangement de santé qui se passera me fasse peur avec le tempérament que vous avez ?» lui répondis-je d'un ton qui allait me trahir, car s'il n'était pas arrêté. « Je suis bien aujourd'hui, mais on n'est pas éternel, mon enfant. Il y a longtemps que je me suis dit, » me dit-elle en cachant un paquet. Écrivez-vous donc, madame, lui dis-je, sans répondre à sa réflexion. À personne, reprit-elle, ce sont des mesures que je viens de prendre pour toi. Bon, tu sais, je n'ai plus de fils. Depuis près de 20 ans qu'on a entendu parler du mien, je le crois mort, et quand il vivrait, ce serait la même chose pour moi. Donc j'ai encore aucun ressentiment contre lui, s'il vit. Je prie Dieu de le bénir et de le rendre honnête homme, mais si l'honneur de la famille, ni la religion, ni les bonnes mœurs qu'il a violées, ne me permettent pas de lui laisser mon bien. Je voulus l'interrompre ici pour essayer de l'attendrir sur ce malheureux fils, mais elle ne m'écouta point. « Tais-toi, me dit-elle, mon parti est pris. Oh, ce n'est point par humeur que je suis inflexible. » Il n'est pas question ici de bonté, mais d'une indulgence folle et criminelle qui nuirait à l'ordre et à la justice humaine et divine. L'action de Dursan fut affreuse. Le misérable ne respecta rien. Et tu veux que je donne un exemple d'impunité qui serait peut-être funeste à ton fils même, si jamais tu en as un? Si le mien, comme a fait autrefois ton père, qui fut traité avec trop de rigueur, s'était marié. Oh, je ne dis pas une fille de condition, mais du moins de bonne famille, ou simplement de famille honnête, quoique pauvre en vérité, je me serais rendu, n'aurais pas regardé au bien, et je ne serais pas aujourd'hui à lui faire grâce. Mais épouser une fille de la lie du peuple et d'une famille connue pour infâme parmi le peuple, je n'y serais pensé qu'avec horreur. Mais revenons à ce que je disais. Il ne me reste pour tout héritier que ton oncle Tervire, qui est déjà assez riche et qui l'aide de ton bien. Il a profité durement du malheur de ton père, m'a-t-on dit. Il ne l'a jamais ni consolé ni secouru. Il se réjouirait encore du malheur de mon fils et du sujet de mes larmes. Ainsi je ne veux point de lui. Il jouit d'ailleurs de l'héritage de tes pères et n'en prend pas plus d'intérêt à son sort. Je songe aussi que tu n'as pas grand secours à attendre de ta mère. Tu mérites une meilleure situation que celle où tu resterais, et ma succession servira du moins à faire la fortune d'une nièce que j'aime, dont je vois bien que je suis aimé, et qui craint de me perdre, et qui me regrettera, j'en suis sûr, toute mon héritière qu'elle sera, et que mon fils, qui peut n'être pas mort, ne trouva pas sans pitié pour lui dans la misère où il est peut-être. Ta reconnaissance est une ressource que je lui laisse. Voilà, ma fille, de quoi il est question dans le papier cacheté que tu vois. J'ai cru devoir me hâter de l'écrire, je t'y donne tout ce que je possède. » Je ne lui répondis que par un torrent de larmes. Ce discours, qui m'offrait partout l'image de sa mort, m'attendrit et m'effraya tant qu'il me fut impossible de prononcer un mot. Il me sembla qu'elle allait mourir, qu'elle me disait un éternel adieu, et jamais sa vie ne m'avait été si chère. Elle comprit le sujet de mon saisissement et de mes pleurs. Je m'étais assise, elle se leva pour s'approcher de moi, et me prenant la main, « Tu m'aimerais encore mieux que ma succession, n'est-il pas vrai, ma fille ?»« Mais ne t'alarme point, me dit-elle, ce n'est qu'une précaution que j'ai prise. » « Non, madame, lui dis-je en faisant un effort, votre fils n'est pas mort, et vous le reverrez, je l'espère. » En cet instant, nous entendîmes quelques bruits dans la salle. C'étaient deux dames d'un château voisin qui venaient voir madame d'Ursan, et je me sauvais pour n'être point vu dans l'état où j'étais. Il fallut cependant me montrer un quart d'heure après. Elle venait inviter madame d'Ursan à une partie de pêche qui se faisait le lendemain chez elle, et comme elle s'en excusa sur ses indispositions, elles la prièrent du moins de vouloir bien m'y envoyer, et tout de suite demandèrent à me voir. Madame d'Ursan, qui leur promit que j'y viendrais, me fit avertir et je fus obligé de paraître. Ces deux dames, toutes deux encore jeunes, dont l'une était fille et l'autre mariée, étaient aussi de toutes nos amies, celle avec qui je me plaisais le plus et qui avait le plus d'amitié pour moi. Il y avait 10 ou 12 jours que nous nous étions vus. Je vous ai dit que mes inquiétudes m'avaient beaucoup changé, et elles me trouvèrent si abattue quelque que j'avais été malade. « Non, leur dis-je, tout ce que j'ai, c'est que depuis quelque temps, je dors assez mal, mais cela reviendra. » Là-dessus, madame d'Ursan me regarda d'un air attendri, et que j'entendis bien, c'est qu'elle s'attribuait mon insomnie. « Ces dames, dit-elle ensuite, souhaiteraient que nous allassions demain une partie de pêche qui se fera chez elles, mais, oh, je suis trop incommodée pour sortir, et je n'y enverrai que toi, Tervire. » Comme il vous plaira, lui répondis-je, bien résolu de prétexter quelque indisposition plutôt que de la laisser seule toute la journée. Aussi, le lendemain, avant que madame d'Ursan fût éveillée, eus-je soin de leur dépêcher d'un domestique qui leur dit qu'une migraine violente qui m'était venue dès le matin et qui me retenait au lit m'empêchait de me rendre chez elle. Madame d'Ursan, étonnée, quelques heures après, de voir entrer chez elle une femme de chambre qu'elle avait chargée de me suivre, apprit d'elle que je n'étais point parti et sut en même temps l'excuse que j'en avais donnée. Cependant, je me levai pour aller chez elle, et j'étais à moitié de sa chambre quand je la rencontrai, qui, malgré la peine qu'elle avait à marcher depuis quelque temps et soutenue d'un laquais, venait voir elle-même en quel état j'étais. « Comment ? Te voilà levée ?» me dit-elle en s'arrêtant dès qu'elle me vit. « Et ta migraine ?»« Ce n'en était pas une, lui dis-je. Je me suis trompée. Ce n'était qu'un grand mal de tête qui est extrêmement diminué, et je suis bien fâchée d'être pas arrivée plus tôt pour vous le dire. » « Va, reprit-elle, tu n'es qu'une friponne, et tu mériterais que je te fisse partir tout à l'heure. Mais viens donc, puisque tu as voulu rester. Mais je vous assure que je serais parti si je n'avais pas cru être malade, lui répondis-je d'un air ingénu. Et moi, me dit-elle, je t'assure que j'irai partout où l'on m'invitera, puisque tu n'es pas plus raisonnable. Et mais sans doute vous irez partout, repris-je. Je compte bien, vous ne serez pas toujours indisposé, et en tenant de pareils discours, nous arrivâmes dans sa chambre. Nombre de petites choses pareilles à celles que je vous dis là, et dans lesquelles elle devenait toujours mon intention, de quelque manière que je m'y prisse, m'avait tellement gagné son cœur qu'elle m'aimait autant que la plus tendre des mères aime sa fille. Dans ces entrefaites, la plus ancienne des deux femmes de chambre qu'elle avait une vieille fille qui avait toute sa confiance et qui la servait depuis 25 ans, tomba malade d'une fièvre cygne qui l'emporta en 6 jours de temps. Madame d'Ursan en fut consternée. Il est vrai qu'à l'âge où elle était, il n'y a presque point de perte égale à celle-là. C'est une amie d'une espèce unique que la mort vous enlève en pareil cas, une amie de tous les instants, à qui vous ne vous donnez pas la peine de plaire, et qui vous délasse de la fatigue d'avoir plu aux autres, qui n'est, pour ainsi dire, personne pour vous, quoiqu'il y ait personne qui vous soit plus nécessaire, avec qui vous êtes aussi rebutante, aussi petite d'humeur et de caractère que vous avez quelquefois besoin de l'être, avec qui vos infirmités les plus humiliantes ne sont que des mots pour vous, et point une honte, enfin, une amie qui n'en a même pas le nom, et que souvent vous n'apprenez que vous aimez que lorsque vous ne l'avez plus, et que tout vous manque sans elle. Et voilà le cas où se trouvait Madame d'Ursan, qui avait presque de 80 ans. Aussi, comme je vous l'ai dit, tomba-t-elle dans une mélancolie qui redoubla mes frayeurs. Il lui fallait cependant une autre femme de chambre, et on lui en envoya plusieurs dont elle ne s'accommoda point. Je lui en cherchai moi-même et lui en présentai une ou deux qui ne lui convinrent pas non plus. Ce fut ainsi qu'elle passa près d'un mois, pendant lequel elle eut lieu, dans 1000 occasions, de se convaincre de ma tendresse et de mon zèle. Dans cette occurrence, un jour qu'elle reposait et que je me promenais en lisant aux environs du château, j'entendis un bruit au bout de la grande allée qui servait d'avenue, de sorte que je me tournai de ce côté-là pour savoir de quoi il était question. Et je vis que c'était le garde de Madame d'Ursan, avec un de ses gens, qui corrélait un jeune homme qui semblait avoir envie de le maltraiter et tâchait de lui arracher un fusil qu'il tenait. Je me sentis un peu ému du ton brutal et menaçant dont il lui parlait, aussi bien que de cette violence qu'il voulait lui faire, et je m'avançai le plus vite que je pus en leur criant de s'arrêter. Plus j'approchais d'eux et plus leur action me déplut. C'est que j'en voyais mieux le jeune homme en question, qui était en effet difficile de regarder indifféremment, et dont l'air, la taille et la physionomie me frappèrent, malgré l'habit tout uni et presque usé dont il était vêtu. Mais que faites-vous là donc, vous autres? Dis-je alors avec vivacité assez brutaux quand je fus près d'eux. Ben, nous arrêtons ce garçon qui chasse sur les terres de madame, qui a déjà tué du gibier et que nous voulons désarmer, me répondit le garde avec toute la confiance d'un valet qui est charmé d'avoir fait faire du mal. Le jeune homme, qui avait ôté son chapeau d'un air fort respectueux dès que je m'étais approché, jetait de temps en temps sur moi des regards et modestes et suppliants pendant que l'autre parlait. Laissez, laissez aller, monsieur, dis-je après au garde, qui ne l'avait appelé que ce garçon, et dont je fus bien aise de corriger l'incivilité. Retirez-vous, ajoutai-je. Il est sans doute étranger, n'a pas su les endroits où il pouvait chasser. Oh, je ne faisais que traverser pour aller ailleurs, mademoiselle, me répondit-il alors en me saluant. Et ils ont tort de croire que j'ai tiré sur la terre de leur dame, et plus encore de vouloir désarmer un homme qu'ils ne connaissent point, et qui, malgré l'état où il le voit, n'est pas fait, je vous assure, pour être maltraité par des gens comme eux, et sur lesquels ils se sont jetés que par surprise. À ces mots, le garde et son camarade insistèrent pour me persuader qu'il ne méritait point de grâce et continuèrent de l'apostropher désagréablement, mais je leur imposai silence avec indignation. En arrivant, je les avais trouvés que brutaux, et depuis qu'il avait dit quelques paroles, je les trouvais insolents. Mais taisez-vous, leur dis-je, vous parlez mal, allez, éloignez-vous, mais ne vous en allez pas. Et puis, m'adressant à lui, vous ont-ils ôté votre gibier, lui dis-je. Non, non, mademoiselle, me répondit-il, et je ne saurais trop vous remercier de la protection que vous avez la bonté de m'accorder dans cette occasion-ci. Oh, il est vrai que je chasse, mais pour un motif qui vous paraîtra sans doute bien pardonnable. C'est pour un gentilhomme qui a beaucoup de parents dans la noblesse de ce pays-ci, qui en est absent depuis longtemps et qui est arrivé d'avant-hier avec ma mère. En un mot, mademoiselle, c'est pour mon père. Je l'ai laissé malade ou moins très indisposé dans le village prochain, chez un paysan qui nous a retirés, comme vous jugez bien qu'il vit assez mal, qu'il n'y peut trouver qu'une nourriture moins convenable qu'il ne faudrait, et qu'il n'est guère en état de faire beaucoup de dépenses. Je suis sorti tantôt pour aller vendre un petit bijou que j'ai sur moi, dans la ville qui n'est plus qu'à une demi-lieue d'ici, et en sortant, j'ai pris ce fusil dans l'intention de chasser en chemin et de rapporter à mon père quelque chose qu'il pût manger avec moins de dégoût que ce qu'on lui donne. Vous voyez bien, Marianne, que voilà un discours assez humiliant à tenir. Cependant, dans tout ce qu'il me dit là, il n'y eut pas un ton qui m'excita à mes égards autant que ma sensibilité et qui ne m'aida à distinguer l'homme d'avec sa mauvaise fortune. Il n'y avait rien de si opposé que sa figure et son indigence. Je suis fâché, lui dis-je, de n'être pas venu assez tôt pour vous épargner ce qui vient de se passer, et vous pouvez chasser ici en toute liberté. J'aurais soin qu'on ne vous en empêche pas. Continuez, monsieur, la chasse est bonne sur ce terrain-ci, et vous n'irez pas loin sans trouver ce qu'il vous faut pour votre malade. Mais peut-être vous demandez ce que c'est que ce bijou que vous avez dessein de vendre? Hélas, mademoiselle, reprit-il, c'est fort peu de chose. Il n'est question que d'une bagatelle de 200 francs tout au plus, mais qui suffira pour donner à mon père le temps d'attendre que ses affaires changent. La voici, ajouta-t-il en me la présentant. Si vous voulez revenir demain matin, lui dis-je après l'avoir prise et regardée, peut-être vous en aurai-je défaut. Je la proposerai du moins à la dame du château, qui est ma tante. Elle est généreuse. Je lui dirai ce qui vous engage à la vendre. Elle en sera sans doute très touchée, et j'espère qu'elle vous épargnera la peine de la porter à la ville, où je prévois que peu de gens en auront envie. C'était en lui remettant la bague que je lui parlais ainsi, mais il me pria de la garder. Il n'est pas nécessaire que je la reprenne, mademoiselle, puisque vous voulez bien tenter ce que vous dites, et que je reviendrai demain, me répondit-il. Il est juste d'ailleurs que la dame dont vous parlez ait le temps de l'examiner. Ainsi, mademoiselle, permettez que je vous la laisse. La subite franchise de ce procédé me surprit un peu, me plut et me fit rougir, je ne sais pas pourquoi. Cependant, je refusai d'abord de me charger de cette bague et le pressai de la reprendre. Non, non, mademoiselle, me dit-il encore en me saluant pour me quitter. Il vaut mieux que vous l'ayez dès aujourd'hui, afin que vous puissiez la montrer. Et là-dessus, il partit pour abroger la contestation. Je m'arrêtai à le regarder pendant qu'il s'éloignait, et je le regardais en le plaignant, en lui voulant du bien, en aimant à le voir, en ne me croyant que généreuse. Le garde et son camarade étaient restés dans l'allée, à 30 ou 40 pas de nous, comme je leur avais ordonné, et je les rejoignis. Si vous retrouviez aujourd'hui ou demain ce jeune homme chassant encore ici, leur dis-je, je vous défends de la part de Madame d'Ursan de l'inquiéter davantage. Je vais avoir soin d'ailleurs qu'elle vous défende elle-même. Et puis je rentrai dans le château où l'esprit toujours plein de ce jeune homme et de sa décence, de ses airs respectueux et de ses grâces. Cette bague même qu'il m'avait laissée avait part mon attention. Elle m'occupait et n'était pas pour moi une chose indifférente. J'allais chez Madame d'Ursan, qui était réveillée et à qui je contais ma petite aventure, avec l'ordre que j'avais donné de sa part au garde. Elle ne manqua pas d'approuver tout ce que j'avais fait. Un jeune chasseur de si bonne mine, car je n'oublie rien de ce qui pouvait le rendre intéressant, un jeune homme si poli, si doux, si bien élevé, qui chassait avec un zèle si édifiant pour un père malade, ne pouvait que trouver grâce auprès de Madame d'Ursan, qui avait le cœur bon et qui ne voyait dans mon récit que sa justification ou son éloge. « Oui, ma fille, tu as raison, me dit-elle. J'aurais pensé comme toi si j'avais été à ta place, et ton action est très louable. » Pas si louable qu'elle se l'imaginait, ni que je le croyais moi-même. Ce n'était pas là le mot qu'il eût fallu dire. Quoi qu'il en soit, dans l'attendrissement où je la vis, j'augurais bien du succès de ma négociation au sujet de la bague dont je lui parlais, et que je lui montrais tout de suite, persuadé que je n'avais qu'à lui en dire le prix pour en avoir l'argent. Mais je me trompais. Les mouvements de ma tante et les miens n'étaient pas tout à fait les mêmes. Madame d'Ursan n'était que bonne et charitable. Cela laisse du sang-froid et n'engage pas à acheter une bague dont on n'a que faire. « Mais tu n'y songes pas, me dit-elle. Pourquoi t'es-tu chargé de ce bijou? À quoi veux-tu que je l'emploie? Je ne pourrais le prendre pour toi, et je t'en ai donné de plus beau, comme il était vrai. Non, ma fille, allez, reprends-le, ajouta-t-elle tout de suite en me le rendant d'un air triste. Ôte-le de ma vue. Il me rappelle une petite bague que j'ai eue autrefois, et qui était, ce me semble, pareille à celle-ci, et que j'avais donnée à mon fils sur la fin de ses études. À ce discours, je remis promptement la bague dans le papier d'où je l'avais tirée, et l'assurait bien qu'elle ne la verrait plus. « Attends, reprit-elle, j'aime mieux que tu proposes demain à ton jeune homme de lui prêter quelque argent qu'il te rendra, lui diras-tu quand il aura vendu son bijou. Voilà 10 écus pour lui. Qu'on te les rende ou non, je m'en soucie guère, et je les donne quoi qu'il ne faille pas le lui dire. Je m'en garderai bien, lui répartis-je en prenant cette somme, qui était bien au-dessous de la générosité que je me sentais, mais qui, avec quelque argent que je résolus d'y joindre, deviendrait un peu plus digne du service que j'avais envie de rendre. Car de l'argent, j'en avais. Madame d'Ursan, qui dans les occasions voulait que je jouasse, ne m'en laissait point manquer. Tout mon embarras fut de savoir comment je ferais le lendemain pour offrir cette somme au jeune homme en question, sans qu'il en rougît, à cause de l'indigence des siens, ni qu'il pût entrevoir qu'on donnât cet argent plus qu'on ne le prêtait. Je rêvais donc avec attention, j'y rêvais le soir, j'y rêvais étant couché, j'arrangeais ce que je lui dirais, et j'attendis le lendemain, sans impatience, mais aussi sans cesser un instant de songer à ce lendemain. Il arriva donc, et ma première idée, en me réveillant, fut de penser qu'il était arrivé. J'étais avec Madame d'Ursan sur la terrasse du jardin, et nous y entretenions toutes deux, assises après le dîner, quand on vint me dire qu'un jeune étranger, qui était dans la salle, demandait à me parler. « C'est apparemment ton chasseur d'hier, me dit Madame d'Ursan. Eh bien, va lui rendre sa bague et tâche de l'amuser un instant. » Je vais retourner dans ma chambre, je serai bien aise de le voir en traversant la salle. » Je me levai donc avec une émotion secrète que je n'attribuais qu'à la fâcheuse nécessité de lui remettre le diamant et qu'à l'embarras du compliment que j'allais lui faire pour cette somme que je tenais toute prête et que j'avais augmentée de moitié. Je l'abordai d'abord avec cet air qu'on a quand on vient dire aux gens qu'on n'a pas réussi pour eux. Il se méprit à mon air et crut qu'il signifiait que sa visite m'était en ce moment-là importune. C'est du moins ce que je compris à sa réponse. « Oh, je suis honteux de la peine que je vous donne, mademoiselle, et je crains bien de n'avoir pas pris une heure convenable, » me dit-il en me saluant avec toutes les grâces qu'il avait ou que je lui croyais. « Non, monsieur, lui répartis-je, vous venez à propos, je vous attendais, mais ce qui me mortifie, c'est que j'ai encore votre bague et que je n'ai pu engager ma tante à la prendre comme je vous l'avais fait espérer. Elle a beaucoup de ces sortes de bijoux et ne saurait, dit-elle, à quoi mettre le vôtre. Elle serait cependant charmée d'obliger Donnel Jean, et quoiqu'elle ne vous connaisse pas sur ce que je lui ai dit, que les personnes à qui vous appartenez étaient restées dans le village prochain, qu'elle venait dans ce pays-ci pour une affaire de conséquence, et que vous ne vendez ce bijou que pour en tirer un argent dont vos parents avaient actuellement besoin. Enfin, monsieur, sur la manière dont je lui ai parlé de vous et de l'attention que vous méritiez, elle a cru qu'elle ne risquerait rien à vous faire un plaisir, qu'elle serait bien aise qu'on en lui fît en pareil cas. C'est de vous prêter cette somme en attendant que les vôtres aient reçu de l'argent, ou que vous ayez vendu le diamant dont la vente serait acquittée, et j'ai sur moi 20 écus que vous nous devrez, et que voilà, ajoutai-je. « Quoi, mademoiselle, me répondit-il en souriant doucement et d'un air reconnaissant, vous me remettez la bague? Mais nous vous sommes inconnus, vous ne me demandez ni nom ni billet, et vous ne m'en offrez pas moins cet argent. Vous avez raison, monsieur, lui dis-je. On pourrait d'abord regarder cela comme imprudent, je l'avoue. Mais vous êtes assurément un jeune homme plein d'honneur, on voit bien que vous venez de bon lieu, et je suis persuadé que je ne hasarde rien. À quoi d'ailleurs vous servirait votre billet et votre nom, si vous n'étiez pas ce que je pense? Quant au diamant, je vous le rends, afin que vous le vendiez, monsieur. C'est avec lui que vous me paierez. Cependant, ne vous pressez point, il vaut, dit-on, plus de 200 francs. Prenez tout le temps qu'il faudra pour vous en défaire sans y perdre. » Et je lui présentai en lui parlant ainsi. « Je ne sais, mademoiselle, me répondit-il en le recevant, de quoi nous devons nous être plus obligés, ou du service que vous voulez nous rendre, ou du soin que vous prenez pour nous le déguiser, car on ne prête point des inconnus, c'est vous en dire assez. Et mon père et ma mère seront aussi pénétrés que moi de vos bontés. Mais je venais ici pour vous dire, mademoiselle, que nous ne sommes plus dans l'embarras et que depuis hier, nous avons trouvé une amie qui nous a prêté tout ce qu'il nous fallait. » Madame Ursan, qui entra alors dans la salle, m'empêcha de lui répondre. Il se douta bien que c'était ma tante, et il lui fit une profonde révérence. Elle fixa les yeux sur lui, en le saluant à son tour avec une honnêteté plus marquée que je ne l'aurais espéré, et qu'elle crut apparemment de voir à sa figure qui était fort noble. Elle fit plus, elle s'arrêta pour me dire « N'est-ce pas, monsieur, qui vous avez confié à la bague que vous m'avez montrée, ma nièce ?»« Oui, madame, mais il n'est plus question de cela, lui répondis-je, et monsieur ne la vendra point. »« Tant mieux, reprit-elle, il aurait eu de la peine à s'en défaire ici. » Mais quoique je ne m'en sois pas accommodé, ajouta-t-elle en s'adressant à lui, pourrais-je vous être bonne à quelque chose, monsieur? Vos parents, à ce que m'a dit ma nièce, sont nouvellement arrivés en ce pays-ci. Ils y ont des affaires, et s'il y avait occasion de les y servir, j'en serais charmé. J'aurais volontiers embrassé ma tante, tant elle lui savait gré de ce qu'elle venait de dire. Le jeune homme rougit rougetant, et j'y pris garde. Il me parut embarrassé. Je n'en fus point surprise. Il se douta bien que ma tante, à cause de sa mauvaise fortune, avait été curieuse de voir comment il était fait, et on n'aime point à être examiné dans ce sens-là. On est même honteux de faire pitié. Sa réponse n'en fut cependant ni moins polie ni moins respectueuse. « J'instruirai mon père et ma mère de l'intérêt que vous daignez prendre dans leurs affaires, » repartit-il, « et je vous supplie pour eux, madame, de leur conserver des intentions si favorables. » À peine eut-il prononcé ce peu de mots que madame d'Ursan resta comme étonnée. Elle garda même un instant de silence. « Votre père est-il encore malade ? » lui dit-elle après. « Un peu moins depuis hier soir, madame, » répondit-il. « Et de quelle nature sont ces affaires ? » ajouta-t-elle encore. « Il est question, » dit-il avec timidité, « d'un accommodement de famille dont il vous instruira lui-même quand il aura l'honneur de vous voir, mais de certaines raisons ne lui permettent pas de se montrer si tôt. « Il est donc connu ici, » lui dit-elle. « Non, madame, mais il y a quelques parents, » reprit-il. « Quoi qu'il en soit, » répondit-elle en prenant mon bras pour l'aider à marcher, « j'ai des amis dans le pays, et je vous répète qu'il ne tiendra pas à moi que je lui sois utile. Elle partit là-dessus et m'obligea de la suivre contre mon attente, car il me semblait que j'avais encore quelque chose à dire à ce jeune homme, qui de son côté paraissait ne m'avoir pas tout dit non plus, et ne croyait pas que je me retirerais si promptement. Je vis dans ses yeux qu'il me regrettait, et je tâchais qu'il vît dans les miens que je voulais bien qu'il revînt s'il le fallait. Je suis de ton avis, me dit Madame d'Ursan quand nous fûmes seuls. Ce garçon-là est de très bonne mine et ceux à qui il appartient sont sûrement des gens de quelque chose. Mais sais-tu bien qu'il a un son de voix qui m'a ému? En vérité, j'ai cru entendre parler mon fils. Que te disait-il quand je suis arrivé? Qu'une amie de son père avait trouvé, repris-je, l'avait tiré du besoin d'argent où il était, et qu'il vous rendait 1 000 grâces de la somme que vous offriez de prêter. À te dire le vrai, me répondit-elle, ce jeune homme parle d'un accommodement de famille, et je crains fort que le père ne se soit autrefois battu. Il y a toute apparence que c'est pour cela qu'il se cache. Mais tant pis, il lui sera difficile de sortir d'une pareille affaire. On vint alors nous interrompre. Je laissai Madame d'Ursan et j'allai dans ma chambre pour y être seul. J'y rêvais assez longtemps sans m'en apercevoir. J'avais voulu remettre à ma tante les 10 écus qu'elle m'avait donnés pour le jeune homme, mais elle les avait laissés. Et il reviendra, disais-je. Il reviendra. Je suis d'avis de garder toujours cette somme. Il ne sera peut-être pas fâché de la retrouver. Et je m'applaudissais innocemment de penser ainsi. J'aimais à me sentir un si bon cœur. Le lendemain, je crus que la journée ne se passerait pas sans que je revisse ce jeune homme. C'était là mon idée, et l'après-midi, je m'attendais à tout moment qu'on allait m'avertir qu'il me demandait. Cependant, la nuit arriva sans qu'il eût paru, et mon bon cœur, par un dépit imperceptible et que j'ignorais moi-même, en devint plus tiède. Le jour d'après, point de visite non plus. Malgré ma tiédeur, j'avais porté jusque-là l'argent que je lui destinais. Mais alors, allons, me dis-je, il n'y a qu'à le remettre dans ma cassette. Et c'était toujours mon bon cœur qui se vengeait sans que je le susse. Enfin, le surlendemain, une des meilleures amies de Madame d'Ursan, femme à peu près de son âge, qui était venue voir sur les 4 heures, et que je reconduisais par galanterie jusqu'à son carrosse, qu'elle avait fait arrêter dans la grande allée, me dit au sortir du château: Promenons-nous un instant de ce côté. Et elle tournait vers un petit bois qui était à droite et à gauche de la maison et qu'on avait percé pour faire l'avenue. Il y a quelqu'un qui vous y attend, ajouta-t-elle, qui n'a pas osé me suivre chez vous et que je suis bien aise de vous montrer. Je me mis à rire. Au moins puis-je me fier à vous, madame, et n'a-t-on pas dessein de m'enlever? Lui répondis-je. Non, reprit-elle du même ton, je ne vous mènerai pas bien loin. En effet, à peine étions-nous entrés dans cette partie du bois, que je vis à 10 pas de nous 3 personnes qui nous abordèrent avec de grandes révérences, et de ces 3 personnes, j'en connus une qui était mon jeune homme. L'autre était une femme très bien faite, d'environ 38 à 40 ans, qui devait avoir été de la plus grande beauté, et à qui il en restait beaucoup, mais qui était pâle, et dont l'abattement paraissait venir d'une tristesse ancienne et habituelle, au surplus mise comme une femme qui n'aurait pu conserver qu'une vieille robe pour se parer. L'autre était un homme de 43 ou 44 ans, qui avait l'air infirme, assez mal arrangé d'ailleurs, à qui on ne voyait plus, pour tout reste de dignité, que son épée. Ce fut lui qui, le premier, s'avança vers moi en me saluant. Je lui rendis son salut, sans savoir à quoi cela aboutissait. Monsieur, dis-je au jeune homme qui était à côté de lui, dites-moi, je vous prie, de quoi il est question. Eh bien, de mon père et de ma mère, que vous voyez, mademoiselle, me répondit-il, ou pour vous mettre encore mieux au fait, de monsieur et de madame d'Ursan. Voilà ce que c'est, ma fille, me dit alors la dame avec qui j'étais venu. Voilà votre cousin, le fils de cette dame qui vous a donné tout son bien, à ce qu'elle m'a confié elle-même, et je vous en demande pardon, car avec la belle âme que je vous connais, je savais bien qu'en vous amenant ici, je vous faisais le plus mauvais tour du monde. Et à peine achevait-elle ces mots que la femme tomba à mes pieds. Mais c'est à moi, qui ai causé les malheurs de mon mari, à me jeter à vos genoux et à vous conjurer d'avoir pitié de lui et de son fils, me dit-elle en me tenant une main qu'elle arrosait de ses larmes. Pendant qu'elle parlait, le père et le fils, tous deux, les yeux en pleurs et dans la posture du monde la plus suppliante, attendaient ma réponse. Mais que faites-vous donc là, madame? M'écriai-je en l'embrassant et pénétré jusqu'au fond de l'âme de voir autour de moi cette famille infortunée qui me rendait l'arbitre de son sort et ne me sollicitait qu'en tremblant d'avoir pitié de sa misère. Mais que faites-vous donc, madame? Levez-vous, lui criai-je. Vous n'avez point de meilleur ami que moi. Est-il nécessaire de vous abaisser ainsi devant moi pour me toucher? Pensez-vous que je tienne à votre bien? Est-il à moi dès que vous vivez? Je n'en ai reçu la donation qu'avec peine, et j'y renonce avec 1000 fois plus de plaisir qu'il ne m'en aurait jamais fait. Je tendais en même temps une main au père, qui se jeta dessus aussi bien que son fils, dont l'action plus tendre et plus timide me fit rougir, toute distraite que j'étais par un spectacle aussi attendrissant. À la fin, la mère, qui était jusque-là restée dans mes bras, releva tout à fait et me laissa libre. J'embrassai alors monsieur d'Ursan, qui ne put prononcer que des mots sans aucune suite, qui commençait 1000 remerciements et n'en achevait pas un seul. Je jetai les yeux sur le fils après avoir quitté le père. Ce fils était mon parent, et dans de pareilles circonstances, rien ne devait m'empêcher de lui donner les mêmes témoignages d'amitié qu'à monsieur d'Ursan, et cependant je n'osais pas. Ce parent-là était différent. Je ne trouvais pas que mon attendrissement pût lui être si honnête. Il se passait entre lui et moi je ne sais quoi de trop doux qui m'avertissait d'être moins libre et qui lui en imposait à lui-même. Mais aussi, pourquoi l'aurais-je traité avec plus de réserve que les autres? Qu'en aurait-on pensé? Je me terminai donc et je l'embrassai avec une émotion qui se joignit à la sienne. Voyons d'abord ce que vous souhaitez que je fasse, dis-je alors à monsieur et à madame Mursan. Ma tante a beaucoup de tendresse pour moi, et vous devez compter sur tout le crédit que cela peut me donner sur elle. Encore une fois, le testament qu'elle a fait pour moi est rien, c'est la même chose. Et je le lui déclarerai quand il vous plaira, mais il faut prendre des mesures avant que de vous présenter à elle, ajoutai-je en adressant la parole à Dursan le père. Trouvez-vous à propos que je la prévienne, me dit la dame qui m'avait amené, et que je lui avoue que son fils est ici? Non, repris-je d'un air pensif. Je connais son inflexibilité à l'égard de monsieur et on ne serait pas là le moyen de réussir. Hélas, mademoiselle, reprit Dursan le père, c'est comme vous voyez un mourant qu'elle pardonnerait. Il y a longtemps que je n'ai plus de santé. C'est pas pour moi que je lui demande grâce, c'est pour ma femme et pour mon fils que je laisserai dans la dernière indigence. Mais que parlez-vous d'indigence? Ôtez-vous donc cela de l'esprit, lui répondis-je. Vous ne rendez point justice à mon caractère. Je vous ai déjà dit, et je le répète, que je ne veux rien de ce qui est à vous, que j'en ferai ma déclaration, et que dès cet instant, de votre sort cesse de dépendre du succès de la réconciliation que nous allons tenter auprès de ma tante, à moins que, sur mon refus d'hériter d'elle, elle ne fasse un nouveau testament en faveur d'un autre, ce qui ne me paraît pas croyable. Et quoi qu'il en soit, il me vient une idée. Votre mère a besoin d'une femme de chambre. Elle ne saurait s'en passer. Elle en a perdu une que vous avez connue sans doute. C'était la Lefèvre. Bien, mettons à profit cette conjoncture et tâchons de placer auprès d'elle Madame d'Ursan que voilà. Ce sera vous, dis-je à l'autre dame, qui la présenterez et qui lui répondrez d'elle et de son attachement, qui lui en dirait hardiment tout ce qu'en pareil cas on peut dire de plus avantageux. Madame est aimable. La douceur et les grâces de sa physionomie vous rendront bien croyable, et la conduite de madame achèvera de justifier votre éloge. Voilà ce que nous pouvons faire de mieux. Et je suis sûr que sous ce personnage, elle gagnera le cœur de ma tante. Oui, oui, je m'en doute pas, ma tante l'aimera. Vous remerciera de lui avoir donné, et peut-être qu'au premier jour, dans la satisfaction qu'elle aura d'avoir retrouvé infiniment mieux que ce qu'elle a perdu, elle nous fournira elle-même quelques heureux instants où nous ne risquerons rien à lui avouer dans toute supercherie petite qui n'est que louable, qu'elle ne pourra s'empêcher d'approuver, qu'elle trouvera touchante qu'il est en effet et qu'il ne manquera pas de l'attendrir et qu'il aura mis hors d'état de nous résister quand elle en sera instruite. On ne doit point rougir d'ailleurs de tenir lieu de femme de chambre à une belle-mère irritée qui ne vous a jamais vue, quand ce n'est qu'une adresse pour désarmer sa colère. À peine eus-je ouvert cet avis, qu'ils s'y rendirent tous, et que leurs remerciements recommencèrent. Ce que je proposais marquait, disaient-ils, tant de franchise, tant de zèle et de bonne volonté pour eux, que leur étonnement ne finissait point. Dès demain, dans la matinée, dit la dame qui était leur amie et la mienne, je mène Madame d'Ursan à sa belle-mère. Heureusement que tantôt elle m'a demandé si je ne savais pas quelque personne raisonnable qui peut remplacer la Lefèvre. Je lui ai même promis de lui en chercher une et je vous arrête pour elle, dit-elle en entrant en riant à Madame d'Ursan, qui était charmée de ce que j'avais imaginé et qui répondait qu'elle se tenait pour arrêter. Nous attendîmes alors quelques domestiques qui étaient dans l'allée de l'avenue. Nous craignîmes ou qu'ils ne nous vissent, ou que ma tante ne leur eût dit d'aller voir pourquoi je ne revenais pas, et nous jugeâmes à propos de nous séparer, d'autant plus qu'il nous suffisait d'être convenus de notre dessein, et qu'il nous serait aisé d'en régler l'exécution suivant les occurrences, et de nous concilier tous les jours ensemble quand une fois l'affaire serait entamée. Nous nous retirâmes donc, Madame d'Orfrainville et moi, c'est le nom de la dame qui m'avait amené, pendant que d'Ursan, sa femme et son fils allèrent à travers le petit bois, gagner le haut de l'avenue pour attendre cette dame qui devait en passant les prendre dans son carrosse, qui les avait tous trois logés chez elle, qui les faisait passer pour d'anciens amis dont la perte d'un procès avait déjà dérangé la fortune, et qui, pour les en consoler, les avait engagés à la venir voir pour quelques mois. « Tu as été bien longtemps avec Madame d'Orfrainville, » me dit ma tante quand je fus arrivé. « Oui, dis-je, il n'était point tard, et elle a eu envie de se promener dans le petit bois, et elle n'insista pas davantage. » À 10 heures du matin, le lendemain, Madame d'Orfrainville était déjà au château. Je venais moi-même d'entrer chez Madame d'Ursan. « Enfin, vous avez une femme de chambre, » lui dit tout d'un coup cette dame, « mais une femme de chambre unique. Oh, sans vous, je reverrai la mienne, et je garderai celle-là. Il faut vous aimer autant que je vous aime, pour vous donner la préférence. C'est une femme attentive, adroite, affectionnée, vertueuse. C'est le meilleur sujet, le plus fidèle, le plus estimable qu'il y ait peut-être. » Je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir mieux, et tout cela se voit dans sa physionomie. Oh, je la trouvais hier chez moi, qui venait d'arriver de 20 lieues d'ici. Et de chez qui sort-elle ? Dit ma tante. Comment a-t-on pu se défaire d'une si excellente sujet ? Est-ce que sa maîtresse est morte ? Oui, c'est cela même, repartit Madame d'Orfrainville. qui avait prévu la question et qui s'était pas fait un scrupule d'imaginer de quoi y répondre. Oui, elle sort de chez une dame qui mourut ces jours passés, qui en faisait un cas infini et qui m'en a dit 1000 fois des choses admirables et qui la gardait depuis 15 ou 16 ans. Je sais d'ailleurs qui elle est, je connais sa famille. Elle appartient à de fort honnêtes gens, et enfin, je suis sa caution. Elle venait même dans l'intention de rester chez moi, du moins n'a-t-elle pas voulu, dit-elle, entrer dans aucune des maisons qu'on lui propose, sans savoir si je ne la retiendrai pas. Mais comme je ne suis pas mécontente de la mienne, qu'il vous en faut une, je vous la cède, pour me dire, je vous en fais présent, car c'en est un. Il ne fallait pas moins que ce petit roman-là, ajusté comme vous le voyez, pour engager Madame d'Ursan à la prendre et pour la guérir des dégoûts qu'elle avait de tout autre service que de celui qu'elle n'avait plus. Eh bien, madame, quand vous me le renverrez-vous? Dit-elle. Oh, tout à l'heure, répondit Madame d'Orfrainville. Oh, elle ne viendra pas de bien loin, puisqu'elle se promène sur la terrasse de votre jardin où je l'ai laissée. Quelque mérite, quelque raison qu'elle ait, je n'ai pas voulu qu'elle fût présente à son éloge. Elle ne sait pas aussi bien que moi tout ce qu'elle vaut, et il n'est pas nécessaire qu'elle le sache. Nous passerons bien qu'elle s'estime tant. Elle n'en vaudrait pas mieux, ajouta-t-elle en riant, et peut-être même en vaudrait-elle moins. Voilà, pour l'instruite, c'en est assez. Il n'y a plus qu'à dire à un de vos gens de la faire venir. Non, non, dis-je alors, je vais l'avertir moi-même. Et je sortis en effet pour l'aller prendre. Je ne doutais pas qu'elle était inquiète et qu'elle avait besoin d'être rassurée dans ses commencements. Venez, madame, lui dis-je en l'abordant. On vous attend, vous êtes reçue. Ma tante vous met chez vous, en ne croyant vous mettre que chez elle. Hélas, mademoiselle, vous me voyez toute tremblante. Elle appréhende de me montrer dans l'émotion où je suis, me répondit-elle avec un ton de voix qui ne prouvait que trop ce qu'elle disait et qui aurait pu paraître extraordinaire à ma tante si je l'avais amenée dans cet état-là. Mais de quoi tremblez-vous donc, lui dis-je? Est-ce de vous présenter à la meilleure de toutes les femmes, à qui vous allez devenir chère et qui, dans 15 jours peut-être, pleurera de tendresse et vous embrassera de tout son cœur en apprenant qui vous êtes? Vous n'y songez pas, allons, madame, paraissez avec confiance. Ce moment-ci ne doit rien avoir d'embarrassant pour vous. Qu'y a-t-il à craindre? Vous êtes bien sûr de madame d'Orfrainville, et je pense que vous l'êtes de moi. Oh, mon Dieu, de vous, mademoiselle, me répondit-elle, ce que vous me dites là me fait rougir. Et sur qui donc compterai-je dans le monde? Allons, mademoiselle, je vous suis. Voilà toutes mes émotions dissipées. Et là-dessus, nous entrâmes dans cette chambre dont on avait eu tant de peur d'approcher. Cependant, malgré tout ce courage qui lui était revenu, elle salua avec une timidité qu'on aurait pu trouver excessive dans une autre qu'elle, mais qui, jointe à cette figure aimable et modeste, à ce visage plein de douceur qu'elle avait, parut une grâce de plus chez elle. À mon égard, je souris d'un air satisfait, afin d'exciter encore les bonnes dispositions de ma tante, qui regardait à ma mine ce que je pensais. Mademoiselle Bruno, dit Madame d'Orfrainville à notre nouvelle femme de chambre, vous resterez ici, madame vous retient, et je ne saurais vous donner une plus grande preuve de mon amitié qu'en vous plaçant auprès d'elle. Oh, je l'ai bien assurée qu'elle serait contente de vous, et je ne crains pas de l'avoir trompée. Je n'ose encore répondre que de mon zèle et des efforts que je ferai pour plaire à madame, répondit la fausse Brunon. Et il faut avouer qu'elle tint ce discours de la manière du monde la plus engageante. Je ne m'étonnais point que d'Ursan, le fils, l'eût tant aimée, et je n'aurais pas été surprise qu'alors même on eût pris de l'inclination pour elle. Aussi, madame d'Ursan, la mère, se sentit-elle prévenue pour elle. Je crois, dit-elle à Madame d'Orfrainville, que je ne hasarde rien à vous remercier d'avance. Bruno me revient tout à fait. J'en ai la meilleure opinion du monde et je serais fort trompé moi-même si n'achève pas ma vie avec elle. Oh, je ne fais point de marché, Brunon. Vous n'avez qu'à vous en fier à moi là-dessus. On me dit que je serai contente de vous et vous le serez de moi. Mais n'avez-vous rien à porter avec vous? C'est à côté de moi que je vous loge et je vais dire à une de mes femmes qu'elle vous mène à votre chambre. Non, non, ma tante, lui dis-je au moment qu'elle allait sonner. Oh, je suis bien aise de la mettre au fait. N'appelez personne. Je vais prendre quelque chose dans ma chambre et je lui montrerai la sienne en passant. Elle a laissé deux cassettes chez moi que je lui enverrai tantôt, dit madame d'Orfrainville. Oh, je vous en prie, répondit ma tante. Allez, Brunon, voilà qui est fini. Vous êtes à moi et je souhaite que vous en trouviez bien. Oh, mais ce n'est pas de moi dont je suis en peine, repartit Brunon avec son air modeste. Elle me suivit ensuite et, en sortant, nous entendîmes ma tante qui disait à madame d'Orfrainville: cette femme-là a été belle comme un ange. Je regardai Brunon là-dessus et je me mis à rire. Trouvez-vous ce petit discours d'assez bon augure, lui dis-je. Voilà déjà son fils à demi justifié. Oui, mademoiselle, me répondit-elle en me serrant la main. Ah, ceci commence bien. Il semble que le ciel bénisse le parti que vous m'avez fait prendre. Nous restâmes un demi-quart d'heure ensemble. Je n'étais sorti avec elle que pour l'instruire, en effet, d'une quantité de petits soins dont je savais tout le mérite et que je lui recommandais. Elle m'écouta, transportée de reconnaissance, et se récriant à chaque instant sur les obligations qu'elle m'avait, il était impossible de les sentir plus vivement ni de les exprimer mieux. Son cœur s'épanouissait, ce n'était plus que des transports de joie qui finissaient toujours par des caresses pour moi.